France Inter.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Grand Rendez-vous Face Weekend. Et ce matin, pourquoi la lecture de la romancière anglaise Jane Austen nous fait du bien, l'autrice de Raison et Sentiment, d'Orgueil et Préjugés, de Persuasion ou de L'Abbaye de Northanger. Jane Austen, née en 1775 et morte en 1817 à l'âge de 41 ans. Une vie brève et une postérité exceptionnelle. Une œuvre littéraire qui irrigue désormais la culture pop, des chroniques de Bridgerton aux comédies romantiques contemporaines. Jane Austen qui était tout sauf une romantique et qui a érigé l'ironie au rang de grand art. Pourquoi lisons-nous avec autant de plaisir ces romans? Pourquoi nous est-il encore en 2026? Élément de réponse avec nos invités, l'universitaire Marie-Laure Massey-Chamaillou, la cinéaste Laura Piani et le journaliste Julien Bisson qui a pris un abonnement dans cette émission. Je le vois bien jouer Darcy, je la vois bien interpréter Elisabeth Bennett dans Orgueil et Préjugés, Thibaut de Saint-Maurice et Guillemette Odissino. Bonjour Thibaut de Saint-Maurice.
Bonjour Ali.
Chercheur en philosophie, quelle est votre punchline philo, l'une des célèbres phrases de la pensée, de l'histoire de la pensée?
Alors elle n'est pas complètement célèbre, mais j'espère qu'elle le deviendra de plus en plus.
Grâce à vous.
Voilà, mais je vous expliquerai pourquoi. C'est une phrase de Voltairine de Clare, déjà rien que le nom. Oui. Et elle nous dit « Le mariage est une mauvaise action ».
Bonjour Guillemette Odissino.
Bonjour Ali.
Chef de rubrique cinéma à Télérama, quelle est votre ordonnance de ciné-thérapie?
Écoutez, on va parler d'amour, on va parler de romantisme, et on va dire que, mais oui, ça peut encore exister.
Bienvenue dans Grand Rendez-vous Face Weekend, l'émission qui donne du sens à votre vie quotidienne.
France Inter. Grand bien vous fasse. Ali Rébéi.
T'as un bouquin de Jane Austen à conseiller en toutes circonstances, toi?
Ouais.
Moi, tu me conseillerais quoi?
Mansfield Park. Henry Crawford, c'est toi.
Pourquoi?
Un menteur et un séducteur. Un Casanova d'opérette qui finit par être pris à son propre jeu quand il tombe amoureux.
Ok. Et toi, tu serais qui?
Anne Elliot, dans Persuasion.
Anne Elliot. Pourquoi?
Parce que c'est une vieille fille qui s'est fanée comme une fleur qui n'aurait pas reçu assez d'eau. Elle est consciencieusement passée à côté de son existence.
Extrait de Jane Austen a gâché ma vie de Laura Piani. Bonjour Laura Piani.
Bonjour.
Vous êtes cinéaste, vous avez réalisé donc ce film dont l'actrice principale Camille Rutherford a été nommée César de la meilleure révélation féminine. Vous avez été libraire chez Shakespeare & Co. L'argument du film, en quelques mots, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, il est visible en ce moment sur MyCanal, sur Canal+.
Alors c'est l'histoire d'Agathe qui est libraire à Shakespeare & Company à Paris et qui rêve de vivre une histoire d'amour et qui dépasse jamais le stade de la rencontre, qui rêve d'écrire un roman et qui dépasse jamais les premiers chapitres et qui va être envoyée dans une résidence d'écriture en Angleterre, la Jane Austen Society. Et elle va devoir faire face à toutes ces contradictions et elle va écrire sa propre histoire.
Vous avez adoré le film, hein, Guillemette Odissino? Oh,
mais j'ai adoré. J'ai adoré parce que je trouvais que Laura Piani renouvelait, mais vraiment le romantisme. C'est-à-dire qu'elle va vraiment à la source de tout ce qu'on aime, mais même dans les films romantiques en costume. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un jeu très subtil, intemporel. C'est-à-dire que c'est une comédie ô combien d'aujourd'hui, mais de temps en temps avec un bout de dentelle, un feu de cheminée, un plaid et surtout un amoureux. On a l'impression d'être replongé évidemment dans Jane Austen, et avec ce petit recul contemporain, c'est une pure merveille. Et alors Camille Rutherford, mais alors si c'était pas mais l'interprète idéale, une espèce de grâce maladroite qui est mais absolument splendide.
Bonjour Marie-Laure Massey-Chamaillou.
Bonjour.
Vous êtes maîtresse de conférence à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et vous êtes l'une des plus fines spécialistes de l'œuvre de Jane Austen. Alors, on dit Jane Austen ou Jane Austen?
Souvent, je réponds, on fait comme on peut. Mais bon, Jane Austen, c'est vraiment le E là, est entre le I et le E. Assez compliqué peut-être à prononcer, mais en tout cas, on fait comme on veut surtout. Hein, on ne va pas commencer à être trop prescriptif.
Bonjour Julien Bisson.
Bonjour Ali.
Directeur des rédactions du 1 Hebdo, du 1 des libraires, de Légende et du 1 des écrivains. Dans le 1 des écrivains au kiosque, en ce moment, au numéro consacré à Jane Austen, 250 ans d'amour et d'humour. Alors première question très importante pour ceux qui n'auraient jamais jamais entendu parler de Jane Austen, Marie-Laure Massey-Chamaillou. Qui est-elle ? Elle est née en 1775 à Steventon, dans le sud de l'Angleterre. Son père est pasteur anglican et elle meurt à l'âge de 41 ans seulement en 1817 à Winchester, dans son comté de naissance. Qui était-elle en quelques mots ? À grands traits pour ceux qui ne l'ont jamais lue ou qui ne la connaissent pas.
Elle était une femme remarquable, exceptionnelle, par son courage, par sa culture, par sa capacité à résister aux pressions ambiantes et par sa capacité à s'exprimer à travers l'art, la littérature. Et sa capacité à prendre la plume est aussi remarquable parce qu'à l'époque, écrire des romans était particulièrement mal perçu.
Et au début, d'ailleurs, elle ne signait pas par son patronyme.
Jamais. Elle n'a jamais signé Jane Austen. Elle a donc son premier roman, Raison et Sentiment, Sense and Sensibility, a été publié en 1811 de façon anonyme, avec la simple mention « By a Lady », qui est tout un programme en soi, parce qu'elle indiquait quand même que c'était par une dame, pas par une femme, mais vraiment par une dame, donc avec un certain niveau intellectuel, et puis de ce qu'on appelle les bienséances, hein, « propriety ». Mais sans donner son nom, et parce qu'elle était par nature pudique, réservée et très réticente à se montrer.
Orgueil et préjugés, raison et sentiment, Emma, Lady Susan, Northanger Abbey, Mansfield Park, Persuasion, voici quelques-uns de ses grands romans. Comment l'avez-vous découvert
C'est une belle histoire de transmission de femmes. Je l'ai découverte alors que finalement rien ne me prédestinait à la découvrir parce que c'est grâce à mon professeur de latin, même pas un professeur d'anglais, professeur de latin au collège de Vinay dans l'Isère, au pied du Vercors, un charmant village de 3-4 000 habitants. Et mon professeur de latin en cinquième savait que je me destinais déjà à l'enseignement de l'anglais, alors je ne savais pas à quel niveau. Et elle m'a dit, ça, tu le liras. Voilà, c'est Pride and Prejudice en anglais, dans la collection Penguin.
Orgueil et préjugés.
Voilà, et tu le liras à un moment donné de ta vie. Et quand je l'ai lu, au moment où je suis partie faire ma terminale au lycée français de Londres, lycée Charles de Gaulle, là, oui, j'ai eu une révélation, un coup de cœur.
Comment avez-vous découvert Jane Austen, vous, Laura Piani ?
Alors moi, c'est un peu particulier parce que à 13 ans, j'étais obsédée par les histoires d'amour. C'est pas très, très original. En revanche, du coup, j'avais une espèce d'obsession pour Barbara Cartland. Et je les achetais à 1 euro à Saint-Michel. Enfin, je les lisais, je les échangeais après. Enfin, j'étais obsédée par Barbara Cartland.
C'était la reine du roman à l'eau de rose. Voilà.
Il y a un moment où j'ai lu tout Barbara Cartland chez Bouligné. Il n'y avait plus un seul Barbara Cartland que je n'avais pas lu. Et j'ai demandé à un libraire, en fait, ce que je pouvais lire d'autre. Et il m'a dit, alors, il y a quand même autre chose, là, mademoiselle. Et il m'a fait découvrir Jane Austen. Je ne sais pas qui c'est cet homme, mais il m'a fait un vrai cadeau, parce que du coup, je ne suis plus jamais retournée vers Barbara Cartland.
Racontez-nous ce coup de cœur, Marie-Laure Massey-Chamaillou.
Coup de cœur à 15, 16, 17 ans, un coup de cœur pour l'histoire. L'histoire d'amour qu'on croit parfaitement romantique. C'est après qu'on découvre toutes les failles et toute l'ironie qui mine potentiellement jusqu'au dénouement. Mais on ne peut qu'être charmé quand on est à l'adolescence, qu'on se construit par la force d'âme d'Elizabeth Bennet, par sa capacité à résister aux pressions ambiantes, à s'affirmer. Enfin, c'est une héroïne très inspirante. Mais après, quand on prend un peu d'âge, on lit différemment, hein, Jane Austen.
Laura Piani.
Alors, je ne sais pas si je l'ai lu différemment. Moi, je me souviens, en revanche, de lire, de tourner les pages et d'attendre qu'il y ait une scène de sexe, un baiser, un truc, quelque chose, et d'être très frustrée à 13 ans. Et d'avoir redécouvert Jane Austen en étant libraire et en étant plus à l'aise avec l'anglais, donc dans la langue originale. Et je me souviens d'avoir ri. Mon vrai grand rendez-vous avec Jane Austen, c'était derrière la caisse de Shakespeare & Co. un soir, il n'y avait personne, et j'ai ri aux éclats, ce qui est quand même assez rare quand on lit.
On reviendra tout à l'heure sur l'humour des romans de Jane Austen. Julien Bisson.
Oui, moi je fais partie plutôt de ces générations de garçons pour qui Jane Austen, à l'adolescence, était vue plutôt pour, comme une autrice pour jeune fille. J'avais une vision très déformée de ce que pouvaient être ses livres, notamment parce que assez tôt, j'en ai vu des adaptations qui peut-être m'ont donné l'idée que c'était simplement de la comédie romantique, ou en tout cas que c'est ce à quoi elle avait donné naissance après. Ce n'est que plus tard, dans la vingtaine et dans la trentaine, que vraiment je me suis mis à lire Jane Austen et à vraiment être subjugué par son talent d'écriture, par le fait que c'est comme des comédies romantiques, dans le sens où on sait exactement où on est, on sait exactement où ça va, et c'est son talent qui lui permet d'arriver à faire en sorte qu'on tombe dans le panneau à chaque fois, que véritablement on arrive à aimer ces personnages, on arrive à avoir peur avec eux, et on arrive à être joyeux avec eux quand le happy end, la joyeuse fin arrive au dénouement du roman.
Guillemette Audicino.
Oui, parce qu'effectivement, je suis complètement d'accord, parce qu'il y a toujours un très léger décalage. D'abord, il y a un style qui est fou, qui est très libre. Alors plus dans certains
romans
que dans
d'autres. On parle de style indirect libre.
Oui, le style indirect libre. Et il y a toujours un très léger décalage, c'est-à-dire qu'à la fois effectivement on est dans le principe de ce qu'aujourd'hui on appelle la comédie romantique. En fait, elle a aussi inventé vraiment le roman d'apprentissage d'une certaine manière. Et à chaque fois, il y a un petit recul ironique qui apparaît plus ou moins fortement dans certains livres et pas dans d'autres, mais c'est vrai que moi aussi, l'humour m'a frappée après l'avoir lu adolescente. C'est en la relisant, je me suis dit, mais mon Dieu, mais quelle insolence. Mais en fait, en plus, elle y met du sarcasme, un second degré, souvent une espèce de recul par rapport à toute cette société corsetée qui est incroyable.
Marie-Laure Masséi-Chamaillou, sur ce style indirect libre qui est la marque de fabrique des romans de Jane Austen.
Qui est donc un style...
C'est quoi exactement pour ceux qui ne connaissent pas ce style indirect libre ?
Alors, c'est le fait de pouvoir transmettre à la fois les pensées du personnage, donc la conscience notamment des femmes, puisque les romans sont la plupart du temps s'expriment du point de vue de la femme, mais on a aussi le narrateur qui vient superposer sa voix. Et c'est vraiment politique. C'est là, je pense qu'on touche vraiment, alors non pas à la politique, mais au politique, parce que le style chez Jane Austen est politique, c'est-à-dire qu'il touche au rapport de pouvoir, il touche au questionnement sur l'organisation de la société, sur le statut des femmes, sur l'inégalité fondamentale entre les hommes et les femmes, et ce style indirect libre qui donne tout à coup une profondeur à la femme, à sa conscience, qui lui donne une présence, en soi, ça, c'est déjà proto-féministe et c'est une affirmation presque radicale qu'il faut prendre les femmes au sérieux.
Tiens, quelle est l'idée reçue qui vous agace le plus quand on vous parle de Jane Austen ?
Alors, j'ai lu sur Insta, parce que là, ça y est, je me suis inscrite sur Instagram pour comprendre le phénomène Jane Austen et pourquoi elle était instagrammable. Ouais. Et je comprends mieux, grand bien vous fasse aussi par rapport à tout l'univers, parce qu'il y a le roman et l'univers du roman intérieur, mais il y a aussi tout l'univers autour du roman et des romans. Exactement. Et là, vraiment, j'ai pris conscience que, pour certains, elle était cuculapraline.
Exactement. Oui.
Et ça, je pense que ça vient de certaines adaptations qui sont vues comme des bluettes, parce que pour la BBC, les adaptations de la BBC qui prennent vraiment beaucoup plus le texte au sérieux, puis qui sont des mini-séries. Donc
comme
c'est
l'adaptation de 1995.
Voilà. On
ne
peut pas
de la
comparer
BBC.
Un film avec une série, parce que c'est pas la même temporalité, et puis vraiment l'intonation est mise sur le langage. Mais voilà, j'ai lu que c'était cuculapraline.
Et ça vous agace évidemment. L'idée reçue qui vous agace, Laura Piani
Je crois que c'est la même chose, c'est assez lié en fait, c'est-à-dire qu'on dit de Jane Austen la même chose que ce qu'on dit des comédies romantiques, qu'en fait c'est un genre mineur de filles. Et c'est intéressant parce que justement je crois que ça dit beaucoup plus sur la personne qui dit ça que sur Jane Austen ou sur la comédie romantique en réalité.
Qui n'a pas lu manifestement les romans en fait, c'est surtout ce que ça dit.
Julien Bisson.
Oui, non, c'est intéressant parce que pourquoi est-ce qu'on pense ça ? Parce que les romans de Jane Austen parlent tous de romance. Ce sont tous, elle écrit sur la romance, alors même que d'ailleurs on peut rappeler qu'elle n'a jamais été mariée et qu'elle a une connaissance des nuances, des sentiments qui peut nous frapper quand on pense qu'elle n'a jamais été mariée, sans doute qu'elle n'a jamais vécu beaucoup d'histoires d'amour. Donc elle écrit sur les romances, mais elle n'est jamais romantique dans le sens où, pour elle, l'amour, il n'y a pas un idéal qui serait au-dessus de tout. C'est pas Love Actually où toutes les relations sont à peu près toxiques au nom d'un idéal romantique. C'est vraiment l'inverse, Jane Austen. C'est vraiment, non, l'amour n'est pas au-dessus de tout. Au contraire, il faut arriver à l'enchâsser dans tout un tas de relations sociales sociale.
Économique.
Donc, économique également, c'est-à-dire que la question du mariage, la recherche du mari, qui est quand même souvent un fil rouge dans tous ces livres, elle est aussi avec une dimension économique qui nous renseigne sur la condition féminine de son époque.
Marie-Laure Massey-Chamaillou.
On ne vit pas que d'amour et d'eau fraîche hein, dans les romans de Jane Austen, et il y a une vraie réflexion sur tout le contexte socio-économique et donc politique, puisque sur le juridique même, hein, sur toutes les questions d'héritage. Donc on est quand même dans une prose complexe.
Allez, il est déjà l'heure de retrouver la chronique cinéthérapie de Guillemette Audicino.
France Inter.
Les films sont plus harmonieux que la vie, Alphonse. Il n'y a pas d'embouteillage dans les films, il n'y a pas de temps mort.
Grand bien vous fasse.
Au cinéma, c'est comme ça et pas autrement.
Ha ha.
Alors, cher Ali, il y a des titres en littérature comme au cinéma qui synthétisent à la perfection l'amour dans tous ses états. Que voulez-vous ajouter de plus à orgueil et préjugés pour dire à quel point les sentiments peuvent être compliqués entre fierté féminine, dédain masculin et incapacité à se déclarer sa flamme une bonne fois sans se touiller une mèche pendant 1000 ans. Y a-t-il mieux que Jane Austen a gâché ma vie pour séduire toutes ces filles qui sont déçues par leur Jules parce qu'elles ont lu trop de grands livres d'amour ou, dans mon cas, regarder trop de comédies sentimentales avec des types qui ne font pas la gueule en rentrant du taf. Petit clin d'œil en passant à tous mes ex qui, à un moment ou un autre, m'ont tous balancé « Ah, oh, tu te crois au cinéma ?» Ben ouais, pardon, mais aimer Cary Grant, ben, ça influence. Heureusement, au cinéma, il y a aussi des films où personne n'est parfait, mais c'est cela qui est drôle, qui est tendre et qui donne encore à croire que les films et le réel, c'est pareil. En voilà deux visibles en salle, avec des titres bien sentis. Il y a d'abord « Baise en ville » de Martin Jova, et je vous laisse écouter pourquoi ce jeune réalisateur a choisi ce titre.
Ah, le voilà ! Tiens.
C'est quoi ?
Un baise en ville ?
Un baise en ville.
Tu sais pas ce que c'est ?
Non.
B-A-I, comme baise.
Baise en ville. Petite sacoche, généralement munie d'une dragonne, permettant de transporter l'essentiel pour passer une nuit en dehors de son domicile.
J'avais le même problème que toi, moi, quand j'étais à la fac. Quand je suis arrivée sur Paris, j'habitais Mantes-la-Jolie, et le jeudi soir, on avait travaux pratiques jusqu'à 21h.
Ouais.
Seulement, le cours, il finissait toujours en retard, et moi, à chaque fois, je ratais le dernier train. Du coup, j'étais bloquée sur Paris, et j'avais pas les moyens de prendre un taxi, tu vois, j'étais étudiante.
Classique.
Et un jour, je me suis acheté ce petit baise en ville, et tous les jeudis, j'allais dans un bar, et j'essayais de faire des rencontres, et puis je m'arrangeais pour dormir sur Paris. Comme ça, plus de problèmes de transport.
Ok.
Fais-moi confiance. Le baise en ville, c'est vieux comme le monde.
Alors, vous l'avez compris, grâce à ce dialogue entre le héros et sa prof d'auto-école très décomplexée, il y a des tirés entre baise et ville. Et autour de cette sacoche d'un autre temps, Martin Jova tisse le portrait d'un jeune mec qui essaye de sortir d'un vrai paradoxe. Comme il faut tout de même à 25 ans qu'il parte de chez ses parents, il doit trouver un job. Mais donc, comme il habite en Seine-et-Marne, il faut qu'il passe le permis. Mais pour passer le permis, il faut de l'argent. Et donc, un job. Bon alors, une sorte de faille spatio-temporelle dans la Grande Couronne, et une collection de situations délicieusement loufoques, dans des couleurs rose, jaune, orange, très années 80, mais avec des problèmes complètement 2026. Baise en ville est un film de banlieue hilarant, qui en douce parle du passage à l'âge adulte, du regret de l'enfance, et d'éducation sentimentale.
Guillemette, il n'y a donc pas besoin de Julia Roberts ou de Robert Redford pour avoir des personnages poétiques et sensibles.
Mais non, le romantisme peut se nicher partout, y compris dans un chenil du fond du Québec, alors que la fin du monde menace. Dans Amour Apocalypse, Anne Aymon choisit pour héros un adorable quadragénaire éco-anxieux qui, en quête de tous les moyens pour s'apaiser, achète par correspondance une lampe de luminothérapie. Voilà. Il la casse, il appelle le SAV de l'entreprise, et là, il tombe sur Tina. Sa voix rieuse est un réchauffement climatique bénéfique. Leur histoire d'amour va remuer, je peux vous dire.
Elle dit qu'elle aime ça, passer du temps avec moi.
What?
Ben,
I think it's so, so great.
Elle me trouve vraiment, vraiment super.
Est-ce que t'es bizarre?
Now he says I'm weird.
It's true. I'm so weird.
I know I'm so weird.
Ben ouais. Bah ouais, Tina, ça la fait rire, elle accepte que son chum soit bizarre. Ensemble, ils crèvent les pneus d'un SUV qui nique la planète, et ils traversent un gros orage, bah, au sens propre. Alors dans cette comédie d'amour écologique aussi zinzin que jolie, il y a même une formidable scène de sexe, sans sexe. Hein ? Moi, ça me ravit que de jeunes Français ou de jeunes Québécoises redonnent du poil de la bête à la comédie romantique, car je vais pouvoir hurler à mon prochain mec, ben ouais, je me crois au cinéma, je suis romantique, ben c'est pas la fin du monde.
Et Laura Piani acquiesce. Hein.
Moi j'ai beaucoup aimé, j'ai vu Amour Apocalypse lundi, enfin il y a un humour québécois délirant, mais il y a une grande tendresse pour le personnage principal masculin, neuroatypique, qui est complètement à côté de la plaque, merveilleux.
Rappelez-nous votre ordonnance de cinéthérapie.
Alors,
en salle.
Alors, tous les deux en salle. Baisenville de Martin Jovin et Amour Apocalypse d'Anne Aymon.
La cinéthérapie de Guillemette Odissino a podcasté sur l'appli Radio France. On continue à se demander pourquoi les romans de Jane Austen nous font du bien. Ce sera juste après avoir écouté Françoise Hardy, Fleur de Lune, une chanson sortie en 1970. Françoise Hardy interprétée Fleur de Lune.
France Inter. My favorite
character. Je crois que mon personnage préféré c'est Emma, parce qu'elle ne s'intéresse à aucun garçon et qu'elle est pleine de bon sens.
Grand bien vous fasse, Ali Rebéi.
Et ce matin dans Grand Bien Vous Fasse Weekend, le plaisir de lire Jane Austen, pourquoi l'autrice de Raison et Sentiment, Persuasion ou Orgueil et Préjugé nous fait du bien.
Je vous aime d'un amour ardent. Voudriez-vous me faire l'honneur d'accepter ma main ?
Monsieur, je suis sensible à la lutte que vous avez menée et je suis navrée de vous avoir causé tant de peine. Croyez-moi, c'était involontaire.
Est-ce là votre réponse ?
Oui, monsieur.
Vous vous moquez de moi ?
Non.
Vous me repoussez alors ?
Je suis sûre que les sentiments qui vous empêchaient de vous déclarer vous aideront à surmonter votre peine.
Puis-je savoir pourquoi vous me rejetez en faisant si peu d'efforts pour être poli ?
Et à mon tour, puis-je savoir pourquoi, avec l'intention évidente de me blesser, vous venez me dire que vous m'aimez contre votre volonté ?
Croyez-moi, je ne pensais pas...
N'est-ce pas là une bonne raison à mon impolitesse ? Mais j'en ai d'autres et vous n'êtes pas sans le savoir.
Lesquelles ?
Croyez-vous que je puisse accepter l'homme responsable d'avoir détruit, peut-être pour toujours, le bonheur d'une sœur qui m'est si chère ? Oseriez-vous nier, monsieur Darcy ?
Extrait d'Orgueil et Préjugés de Joey Wright en 2005 avec Keira Knightley et Matthew McFadden. Alors Marie-Laure Masséi-Chamaillou, je rappelle que vous êtes maître de conférence, spécialiste de l'œuvre de Jane Austen, et Laura Piani, vous êtes réalisatrice de Jane Austen a gâché ma vie, que l'on peut voir sur Canal. Comment expliquez-vous que lire Jane Austen ou regarder ses adaptations soit devenu un refuge confortable pour des millions de personnes à travers le monde, Marie-Laure Masséi-Chamaillou?
Alors, au départ, les hommes lisaient Jane Austen. Hein. On ne parle pas des femmes au départ, mais quelqu'un comme Churchill, par exemple, se fait relire Jane Austen pendant la Deuxième Guerre mondiale parce qu'il est alité et qu'il est dans un état d'épuisement et il se dit peut-être que de me faire relire cette œuvre-là va me faire du bien, et il s'étonne en se disant mais qu'est-ce que ces gens-là menaient des vies calmes et sereines. Mais il est vrai que ça lui permet de se replonger dans un monde, alors maintenant on parlerait en anglais d'escapism, c'est-à-dire qu'on cherche à échapper à ce quotidien très pesant. Et j'ai une autre histoire magnifique qui concerne Léonie Villard. Léonie Villard, c'est la première femme à avoir écrit une thèse sur Jane Austen en France en 1914, mais aussi dans le monde. Et Léonie Villard a écrit également un journal de guerre en anglais qui a été magnifiquement traduit par ma collègue Marie Mianowski, qui est professeure à l'université de Grenoble-Alpes. Et dans ce journal de guerre, puisque Léonie Villard vit la Deuxième Guerre mondiale à Lyon, sous les bombes et en ayant faim, et elle dit dans son journal qu'elle est extrêmement reconnaissante envers Jane Austen d'avoir pu et d'avoir su préserver ce monde intact. Et je la cite, pour nous qui vivons dans ce chaos et ce marasme. Et je trouve que ça n'a jamais été aussi vrai qu'en cette année 2026, où on a l'impression que tout est en train de se décaler et que le monde est vraiment sans dessus dessous. Et il est vrai que la relecture des romans de Jane Austen permet de se replonger dans un univers qui semble préservé, alors même que ça n'est pas le cas. Là, il y a quand même aussi une ironie incroyable qui est à l'œuvre.
Laura Piani.
Oui, moi je crois aussi que dans une période où on est surinformé et saturé, relire des histoires où les gens finalement s'organisent une existence autour de l'heure du thé et de l'heure des scones et du bal de la semaine d'après. On a souvent l'impression que le monde, dans les romans de Jane Austen, le monde est là, mais le monde est loin. Et c'est du coup le grand problème de ces héroïnes aussi, c'est comment aller dans le monde, aller vers le monde. Donc c'est aussi très rassurant et très confortable, finalement, d'oublier qu'il y a un monde autour de nous et qu'on peut se concentrer sur une intimité et des sentiments amoureux. Voilà.
Julien Bisson, directeur des rédactions un des écrivains, et vous consacrez un numéro à Jane Austen.
Eh bien, j'ai l'impression aussi que dans les romans de Jane Austen nous permettent de donner du sens à nos vies, même dans leurs dimensions les plus insignifiantes et qui pourraient paraître les plus ennuyeuses. Je crois que Jane Austen disait souvent qu'elle écrivait sur des « important nothings », donc des petits riens importants, et ces romans sont très grands parce que c'est toujours les grands romans, c'est toujours des génies, c'est toujours des univers racontés par des génies qui les connaissent parfaitement. Et Jane Austen, elle avait véritablement à donner du sens à tous ces petits riens et à montrer à quel point ces petits riens pouvaient aussi avoir quelque chose de fondamental. On a écouté là tout à l'heure cette scène d'Orgueil et Préjugés. C'est une scène clé du roman et c'est une confrontation qui en réalité a beaucoup d'importance parce que c'est l'orgueil de Darcy qui est un orgueil aristocratique, qui tire son orgueil de son lignage et de son patrimoine, financier notamment. Et de l'autre côté, c'est l'orgueil de Elizabeth Bennet, qui, elle, va faire appel à sa dignité, elle va faire appel à sa demande de respect. Donc on est dans un passage entre un monde aristocratique et un monde qui se veut beaucoup plus démocratique. Et à travers quelque chose comme ça, vraiment une querelle amoureuse, on voit bien comment est-ce que Jane Austen arrive à nous montrer que nos vies sont en réalité beaucoup plus politiques et que donc dans tous les petits moments les plus insignifiants de nos vies, en réalité, il y a quelque chose de fondamental qui se joue.
Marie-Laure Masséi-Chamaillou.
Oui, c'est exactement. Hein. C'est la miniature du morceau d'ivoire, hein, parce que Jane Austen a utilisé cette métaphore-là. Alors, on l'a beaucoup critiquée. On a dit c'est une métaphore genrée.
C'est quoi cette métaphore ?
Elle explique à son neveu, qui écrit aussi des romans, qu'elle lui laisse toute la vigueur de ses phrases extrêmement masculine, tout comme elle laisse à Walter Scott le soin de s'exprimer sur la grande histoire et le tohu-bohu de la grande histoire, pour préférer, elle, se circonscrire à un petit morceau d'ivoire sur lequel elle ne travaille qu'avec un petit pinceau si fin qu'il ne produit que peu d'effet après beaucoup de labeur. Donc là aussi, on voit bien qu'il y a tout un art derrière, et l'art de la miniature. Quand on pense aux miniatures de la période élisabéthaine de Nicholas Hilliard, on se rend compte de toute la maîtrise que cela nécessite pour pouvoir être au sommet de son art. Et elle excelle effectivement dans cette miniature sur ivoire, mais en transcendant les limites de son cadre pour toucher à des sujets universels et qui résonnent toujours de nos jours, puisque c'est l'amour et puis la vie au quotidien.
Et dans ce sens, le chercheur en littérature Marc Poré nous dit que, et je le cite, que l'œuvre de Jane Austen n'est pas actuelle, au contraire, c'est précisément son inactualité qui la rend intemporelle et qui permet à toutes les époques de se l'approprier. Vous, par exemple, dans votre film, Laura Piani.
Oui, moi, c'est ce qui me fascine dans son œuvre, et c'est ce que j'ai essayé de faire dans mon film, c'était de raconter de quelle manière elle a façonné un idéal romantique qui résonne encore aujourd'hui. Elle a ouvert la voie à la comédie romantique. On l'adapte, on la réadapte. En fait, c'est sans fin, je crois. Enfin, moi, je rêve qu'on continue à l'adapter. Donc, c'est ça qui est merveilleux.
Guillemette Odissino.
Oui, moi, ce qui me frappe, c'est que effectivement, il y a ce côté miniature, il y a ce côté le thé, les scones qui nous protègent du reste du monde. Il y a un petit côté Downton Abbey, qui est aussi une série ô combien réconfortante dans laquelle les gens se nichent. Mais il y a donc dans cette miniature des éclats de violence et de conflits constants. Ça, c'est magnifique. C'est comme irisé, comme ça, de tension. Et ça raconte toujours quand même, au bout du compte, avec plus ou moins d'humour, des personnages féminins en milieu hostile. Et donc ça reste... Alors, je ne sais pas si maintenant on peut dire que c'est moderne et contemporain, vu ce que vous venez de dire. Mais en tout cas, ça reste intemporel. Ce sont des femmes qui luttent pour leurs conditions. Des conditions qu'elles ont dessinées elles-mêmes, mais elles luttent pour leurs conditions. Julien et elles donnent leurs conditions.
Oui, elles donnent leurs conditions, j'allais dire comme guillemets. C'est-à-dire que ce sont des femmes qui, à la fin, très souvent, vont dire oui à une certaine forme de convention sociale, notamment la convention du mariage, mais pour pouvoir dire oui, elles vont toujours se battre pour avoir la liberté de dire non. Et c'est en ça aussi qu'elles sont profondément modernes, les héroïnes de Jane Austen, et qu'elles peuvent faire figure, en effet, de précurseur du féminisme à travers ces personnages-là.
Marie-Laure Massey-Chamaillou.
Oui, et elles disent oui après avoir cheminé, parce qu'il y a tout un cheminement, alors c'est surtout vrai dans Emma, voilà, parce que Emma a beaucoup plus de chemin à faire que les autres, parce qu'elle part de beaucoup plus loin, parce qu'elle est belle, elle est intelligente, elle est riche, mais elle est complètement égocentrique, elle est complètement narcissique, et il faut qu'elle apprenne que le mariage là sera nécessaire pour elle afin d'aider la communauté, pas tellement pour elle, mais afin d'incarner un modèle de couple qui soit susceptible d'aider les autres autour. Mais pour cela, il faut aussi que le héros chemine. Alors, Mr. Knightley est une figure un petit peu paternelle. Donc, mais Emma est un roman beaucoup plus complexe. Parce que là, tout à l'heure, pour rebondir sur l'extrait, le premier extrait que vous avez passé, où la jeune fille disait que dans Emma, ce qu'elle aimait, c'est que Emma ne s'intéressait pas aux garçons. Mais il y a même toute une partie de la critique, et puis c'est même dans le texte même de Jane Austen, qui prouve que Emma s'intéresse même plutôt aux amitiés féminines. Et il y a une forme d'homo-érotisme. Et donc ça aussi, ça peut résonner beaucoup à notre époque.
Marie-Laure Massey-Chamaillou, vous dites justement, dans Le Parisien, justement, que Jane Austen crée des intrigues amoureuses extraordinaires. Elle réinvestit la syntaxe du conte de fées tout en l'enrichissant d'une composante réaliste. C'est ça qu'on aime aussi chez Jane Austen, c'est cette confrontation entre le conte de fées et la réalité, et réalité économique souvent.
Alors, je crois que c'est ça qui explique vraiment la persistance de ces romans de nos jours, c'est parce qu'elle écrit déjà alors, à une époque où tout est en train de bouger. La révolution industrielle a commencé, mais elle n'a pas encore transformé les paysages, comme on peut le voir dans les romans, par exemple, d'Elizabeth Gaskell, Nord et Sud, ou Mary Barton, où là, on a accès à la condition ouvrière au bas quartier de Manchester. Non, là, c'est encore un monde préservé, mais qui est en train de basculer. Donc, basculement d'une époque. Elle naît au 18e siècle, mais elle publie ses romans au 19e. Donc, et au moment où l'apogée de Napoléon arrive, et au moment où il chute hein, avec Waterloo. Donc, on est dans une époque de transformation, et elle hérite aussi de différents genres littéraires. Donc, le conte de fées, la romance, le roman d'apprentissage, le roman de sensibilité, le roman gothique, puisque le roman est un genre, à ce moment-là, qui est en plein essor, qui se cherche et avec différents sous-genres. Et elle réfléchit à cela, parce que sa préoccupation principale, avant d'être le genre gender, c'est le genre romanesque, et c'est le langage. C'est la capacité à trouver le mot juste, surtout quand on parle d'amour, qui est dans le domaine de l'indicible.
Julien Bisson.
Oui, alors Massachemaillou parle de conte de fées. C'est vrai qu'il y a quelque chose du conte de fées raisonnable dans les romans de Jane Austen, moi, qui me frappe beaucoup. C'est-à-dire que très souvent, la comédie romantique nous parle de la rencontre et pas tellement de comment est-ce qu'on vit après. Ils vivent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Bon, ben comment ? Et ce qu'elle nous apprend, c'est pas tellement la passion. La passion, et d'ailleurs, est souvent plutôt à prendre avec des pincettes dans ses romans. C'est plutôt, elle nous montre que le bonheur conjugal, c'est quelque chose à construire. Construire, c'est une œuvre à construire, à protéger, elle a besoin de béquilles, et c'est plutôt quelque chose qui tient, et Orgueil et Préjugés est vraiment emblématique de ce point de vue-là, c'est quelque chose qui tient de la conversation permanente, qui n'est peut-être pas ce qu'on va pouvoir montrer aujourd'hui dans les comédies romantiques, mais vraiment quelque chose qui va devoir se construire et se protéger.
De la joute oratoire.
Laura Piani.
La joute oratoire, et peut-être, en ce qui me concerne, la pierre angulaire de la comédie romantique, c'est-à-dire le malentendu entre deux êtres, le quiproquo. Pour moi, Jane Austen, c'est ça, c'est ce qu'elle a inventé, en fait, ou réinventé, et c'est pour ça que la comédie romantique lui doit tout. Finalement, toutes les histoires d'amour sont construites là-dessus, sinon il n'y en aurait pas. Voilà.
Ce qu'on aime également dans les romans de Jane Austen, Marie-Laure Massey-Chamaillou, c'est que ce sont bien souvent des héroïnes imparfaites.
Mais heureusement, parce que sinon, comment voulez-vous progresser si elle nous présente une héroïne parfaite dès le départ? Ça n'incite pas les jeunes filles ou même enfin, tout genre de lecteurs et de lectrices à progresser, parce qu'elle voulait des lecteurs investis. Elle écrit dans ses lettres « Je n'écris pas pour des elfes engourdis ». Donc, et ça, c'est très moderne aussi. Alors, il ne faut pas le voir comme une marque d'élitisme, mais comme une invitation. Bon, d'abord, elle l'écrit à sa sœur et ça n'était pas destiné à la publication, mais c'est vraiment une invitation à co-construire le sens. Et ça aussi, c'est extrêmement moderne parce qu'elle laisse toute sa place à son lectorat, dans l'interprétation. Il y a une forme d'intersubjectivité, et ça, c'est génial.
Guillemette Odissino.
Moi, je voudrais rebondir sur la notion de qu'elle a abordé tous les genres, enfin, en tout cas, qu'elle a essayé de les redigérer.
Qu'elle a travaillé à l'intérieur et qu'elle a essayé de...
Moi, l'un de mes romans préférés dont on n'a pas encore parlé, c'est L'Abbaye de Northanger. Et vraiment, alors là, elle joue avec le roman gothique. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'elle arrive dans un même livre à dénoncer un peu le côté « attention, jeune fille, ne croyez pas au roman gothique, on vous ment », etc. Et en même temps, d'en faire l'éloge. Elle réussit à faire un roman gothique qui critique le roman gothique, et avec une héroïne qui, alors là, en termes d'évolution de personnage, parce qu'alors Catherine Morland, au début, c'est quand même, pardon, mais c'est un peu une gourde.
Enfin, c'est une anti-héroïne.
C'est une anti-héroïne.
Vous pouvez le dire.
Qui rêve de sentiments, qui rêve de châteaux hantés, qui rêve de manoirs, etc. Bon, et qui va être un petit peu désillusionnée, mais à mon avis, pour son bien.
Avant d'aborder vos romans préférés de Jane Austen, j'aimerais qu'on s'attarde sur l'humour. L'humour, c'est l'un des piliers de son œuvre, Marie-Laure Massey-Chamaillou. C'est une véritable maîtresse de l'ironie. Qu'est-ce qui fait naître le comique chez elle? C'est quoi? C'est le contraste entre les apparences et la réalité, ou est-ce autre chose?
C'est surtout le contraste entre ce que les gens prétendent être ou incarner et la réalité de ce qu'ils sont et qui est parfois profondément méprisables, notamment leur vacuité, leur vénalité, leur vanité aussi, leur cupidité, leur mesquinerie. Enfin bon, on va pas faire la liste, de tous ces défauts-là. Mais elle montre à une époque où on vénère encore le statut, le rang, que ça n'est pas l'apparence qu'il faut regarder, c'est l'être. Et c'est l'essence, donc c'est presque de la philosophie là, à laquelle elle nous convie.
Laura Piani, sur l'humour de Jane Austen.
Alors l'humour de Jane Austen, pour moi, c'est vraiment, c'est aussi la manière dont les personnages s'expriment, ou en fait, au contraire, n'expriment jamais ce qu'ils ressentent, s'interrompent en permanence quand ils sont sur le point de dire quelque chose qui les engage trop, n'agissent jamais en fonction de ce qu'ils disent, enfin c'est cette espèce de décalage en permanence. Dont vous parliez aussi.
Et c'est vrai que ce qu'on adore dans ses romans, c'est la vivacité des échanges. Son art du dialogue est exceptionnel.
C'est un art du dialogue et c'est aussi l'art de l'interruption et de l'hésitation. C'est-à-dire qu'il n'y en a jamais trop. Et moi, je n'ai pas le sentiment d'avoir lu avant elle des auteurs qui permettent à leurs personnages d'hésiter et de s'interrompre au milieu d'une phrase. Ça, c'est remarquable, je trouve.
Mais c'est parce que, justement, elle refuse d'être trop didactique. Et donc, il n'y a pas de leçon de morale qui soit lourdement infligée au lecteur dans ses romans. Et c'est en cela qu'elle est novatrice. Et comme l'écrit Virginia Woolf dans A Room of One's Own, publié en 1929, Jane Austen est la première à écrire sans haine. Sans colère, alors que, dans Northanger, c'est même dans le titre.
Oui.
Northanger, il y a une colère.
Anger, ça veut dire colère en anglais.
C'est la colère. Donc il y a un jeu de mots, mais qui peut exprimer la colère de la femme qui n'est pas dans des conditions optimales pour réussir.
Oui. Julien Bisson.
Oui, et puis c'est aussi très drôle parce que c'est l'art du potin, et l'art du potin parce qu'elle dépeint des femmes qui sont dans un monde où les hommes sont d'habitude toute la parole, et qui d'un seul coup vont pouvoir parler une fois que les hommes sont partis. Et là, c'est là où il y a quelque chose, notamment pour un lecteur masculin, que je recommande de lire Jane Austen, c'est que vous allez aussi avoir accès à une forme d'intériorité féminine et à une forme de dialogue féminin qui est très piquant, qui nous exprime leur véritable regard sur ces personnages masculins devant lesquels on est parfois souvent un peu, on a beaucoup de révérence quand on est face à eux, mais sur lesquels on a beaucoup de choses à dire une fois qu'ils sont partis.
Et l'art du potin, j'ai un petit peu étudié le système des commérages et comment cette économie fonctionne de façon parallèle à l'économie de l'argent et à la circulation de l'argent dans ces romans, et comment cette économie du potin est une économie compensatoire. Elle vient compenser ce que les femmes n'ont pas, c'est-à-dire l'argent, mais elles ont la parole. Et donc, ça permet de dire beaucoup.
Laura Piani, Marie-Laure Masséhi-Chamaillou, un conseil, et c'est le même pour toutes les deux. Vous avez choisi le même roman, c'est Persuasion, publié à titre posthume en 1817 et disponible dans diverses traductions en poche. Pourquoi ce choix
Pour moi, c'est parce que je crois que c'est celui qui m'a fait pleurer. C'est le plus triste, c'est le roman de la maturité, c'est son dernier. Il y a quelque chose de très moderne, je trouve, dans l'idée qu'on peut raconter on peut faire le portrait d'une jeune femme de 27 ans, je crois, qui a la sensation d'avoir raté sa vie à 27 ans. Donc heureusement, aujourd'hui, on n'a plus la sensation d'avoir raté sa vie à 27 ans, mais enfin, on continue à faire croire aux femmes qu'elles peuvent ne plus rien avoir à espérer à un certain âge, par exemple. Donc elle touche à ça, je trouve. Et ça, c'est incroyablement moderne et bouleversant.
Marie-Laure Masséhi-Chamaillou, pourquoi Persuasion ? Alors, on peut commencer par Persuasion ?
On peut commencer par Persuasion, oui, bien sûr. Même si après, ça risque d'être un petit peu plus difficile d'apprécier le reste. Parce que, comme vient de le dire Laura Piani, c'est le roman Testament. C'est un hymne à l'amour. Un amour qu'on pensait définitivement mort et impossible. C'est un hymne à la vie, même quand tout est perdu. Une renaissance est possible. C'est aussi le roman dans lequel l'héroïne qui n'a pas de voix, Anne Elliot, c'est vraiment l'héroïne la plus triste, la plus nostalgique de Jane Austen. Et c'est celle qui fait la déclaration la plus radicale politiquement, puisqu'elle dit lors d'une discussion vers la fin du roman que les hommes ont eu sur nous, les femmes, tous les avantages parce que ce sont eux qui ont eu la plume en main. Et elle le dit à un capitaine de marine qui est ami du héros, le capitaine Wentworth, qui est en train d'écrire une lettre d'amour destinée à Anne Elliot. Et à ce moment-là, il lâche sa plume tombe. Et ça, ça veut dire beaucoup. Ça veut dire qu'on a peut-être là une incitation qui est lancée aux femmes de prendre la plume et d'écrire leur propre version de l'histoire.
Julien Bisson.
Oui, moi, ma persuasion est en effet, je trouve, un très très grand livre et que moins connu parce que moins adapté. Mais c'est véritablement le roman des secondes chances. C'est est-ce qu'il est encore possible de découvrir le bonheur, de retrouver le bonheur une fois qu'on a l'impression de l'avoir perdu, une fois qu'on a eu l'impression que là, notre grande histoire était derrière nous. Et je trouve que de ce point de vue-là, c'est vraiment un livre formidable. Après, s'il faut en défendre d'autres, on a parlé d'Orgueil et Préjugé, on a parlé d'Emma. Parlons de Raison et Sentiment. Je trouve que Raison et Sentiment, c'est un roman plus davantage de jeunesse, puisqu'elle le commence quasiment à l'âge de 23, 24, 25 ans.
Même avant. Bien avant.
Oui. Alors, bien avant. Oui. Et je trouve que dès ce roman-là, elle pointe vraiment ce qui va être au cœur de son œuvre, c'est-à-dire la tension permanente entre la raison et les sentiments. Est-ce qu'il faut faire triompher l'un ou l'autre? Selon les romans, elle ne va pas répondre à la même chose. C'est pour ça que c'est aussi intéressant de la suivre et de voir son évolution dans sa carrière, parce que la réponse n'est pas unique. Ça va être selon les âges de la vie et selon les situations conjugales ou amoureuses, la réponse va être différente.
Et je recommande notamment la traduction chez Littera de Gallemeister de Raison et Sentiment. Et bien, dans un instant, ce sera la punchline philo de Thibaut de Saint-Maurice. Le mariage est une mauvaise action de Voltairine de Clare. On se retrouve juste après avoir écouté David Byrne qui interprète T-shirt. Ça, Guillemette, David Byrne, T-shirt.
Ah, j'aime beaucoup. C'est à la fois pop et planant et tout, c'est très bien.
Philosopher, France Inter, comme le dit Descartes, c'est d'abord douter de tout.
Grand bien vous fasse.
Et donc douter du doute, et donc douter que philosopher, ce soit douter de tout.
Alors ce matin, mon cher Thibaut de Saint-Maurice, vous nous proposez une punchline un peu différente. Le mariage est une mauvaise action et c'est Voltairine de Clercq qui le dit.
Oui, un peu différente parce que cette punchline n'est peut-être pas encore aussi connue que d'autres dont nous avons parlé dans cette chronique. Mais avouez, quand on s'appelle donc Voltairine de Clercq, eh bien on a envie d'en savoir un petit peu plus. Et puis aussi parce que le mariage est une mauvaise action, ça fait donc le lien avec notre discussion précédente sur le plaisir de lire Jane Austen, puisque d'après ce que je comprends en vous écoutant, dans son œuvre, eh bien le mariage est un motif essentiel qui permet de révéler justement les contraintes qui pèsent sur la vie des femmes. Alors, Voltairine de Clercq, je le disais, son nom n'est pas encore peut-être connu de tous nos auditeurs et nos auditrices, mais c'est une militante anarchiste féministe américaine qui a marqué la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle et qui fait partie de ces premières militantes féministes que l'on redécouvre depuis une dizaine d'années. Le mariage est une mauvaise action, c'est ce qu'elle affirme en 1907 lors d'un débat public et c'est une idée qui va traverser tous ses textes et tous ses combats. La formule est faite pour choquer, pour provoquer et donc pour faire réfléchir. Une mauvaise action, d'habitude, c'est plutôt quelque chose qui est comme un vol, une trahison, une agression. Et dans l'imaginaire romantique ordinaire, le mariage, c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire le dénouement heureux de l'histoire. Vous savez, ils se marièrent, ils ont beaucoup d'enfants, tout ça. C'est la victoire de l'amour, la joie de la fête, la robe blanche, les discours tremblants, les photos qui disent que l'on s'aimera, évidemment, pour toujours. Le mariage, en plus d'être une institution sociale, semble donc bien reposer sur un imaginaire de la consécration de l'amour entre deux personnes et donc comme la meilleure des actions. Alors comment comprendre qu'il puisse être pensé comme une mauvaise action ? Est-ce que c'est l'expression d'une simple provocation de la part d'une femme qui ne voulait pas se marier ?
Pas vraiment, parce que Voltairine de Clercq vise l'institution du mariage et non pas le sentiment amoureux.
Mais exactement, Ali, quelle perspicacité une nouvelle fois. Vous m'étonnez toujours. Pour le comprendre, évidemment, il faut en revenir à l'état de cette société dans laquelle Voltairine de Clercq formule cette critique. Ce qui importe, ce n'est pas l'imaginaire, la cérémonie, la fête, mais c'est bien le mariage dans sa réalité juridique, sociale et économique. En 1907, le mariage réel est d'abord un cadre extrêmement strict de relations durables sur le plan sexuel et économique. Et là, son accusation devient claire. Dans une société patriarcale, ce cadre n'est pas neutre. Il fabrique de la dépendance économique, sociale et transforme trop souvent l'intimité sexuelle en contrainte. Dès 1890, dans un texte intitulé « L'esclavage sexuel », Voltairine de Clercq relie explicitement le mariage au contrôle du corps des femmes et à la violence sexuelle rendue invisible. Vous savez, c'est l'époque du chef de famille, du devoir conjugal et de la condamnation sans appel possible de l'adultère des femmes. Ce que Voltairine de Clercq dénonce donc en disant que le mariage est une mauvaise action, ce n'est pas l'idée de s'engager, c'est le fait que l'engagement soit organisé comme une domination, avec un pouvoir légal et social qui s'invite donc jusque dans les chambres à coucher et dans les cuisines. Autrement dit, à rebours des imaginaires romantiques fusionnels qui peuvent se révéler toxiques, Voltairine de Clercq nous invite à distinguer l'amour et la possession. En disant du mariage de son temps qu'il est une mauvaise action, elle nous pousse aujourd'hui à nous demander si nos amours se tissent sur un fond de liberté ou sur un désir de domination. Le mariage n'est donc pas la vérité de l'amour, car l'amour n'a pas besoin de guichet ou de signature. Il a seulement besoin de consentement, de soins, de vérité et de joie. Et donc, dans cette continuité de la pensée de Voltairine de Clercq, le mariage ne peut devenir une bonne action que si on le dépouille de ce qui le rend toxique, la domination patriarcale, l'appropriation de l'autre et l'évidence de la distribution des rôles. Si l'amour donne des ailes, c'est parce que sa seule vérité, c'est celle de la liberté.
Je sens que Laura Piani va s'inspirer de votre chronique pour un prochain film sur le mariage. Les punchlines philo de Thibaut de Saint-Maurice sont à podcaster sur l'appli Radio France. Merci aux amis du vendredi, Thibaut et Guillemette. Merci Marie-Laure Masséi-Chamaillou. On attend avec impatience votre essai consacré à Jane Austen. Merci Laura Piani. Il faut absolument voir Jane Austen a gâché ma vie. C'est à voir sur MyCanal, sur Canal+. Merci Julien Bisson. Le un des écrivains consacrés à Jane Austen est disponible en kiosque. Merci Cyrine Benyounès, Anna Massardier et Lucie Grandet-Lavigne pour la programmation de cette émission avec la collaboration de Noé Brabant. Merci à Claire Destacan pour la réalisation, mais également à Étienne Quenel et Maria Pasquet. Merci à Valentine Chedebois pour la programmation musicale. À la technique ce matin, Laurent Baudouin. Demain, je vous retrouve à 9h30 sur France 2 dans Bel et Bien en compagnie d'Agathe Le Caron. Et lundi, dans Grand Main Vous Fasse, comment faciliter la vie des aidants. N'hésitez pas à témoigner lundi dès 10h au 01 45 24 7000.